Fait que vas-y, David, on t'écoute, éduque-nous. Garde-toi.
Oui.
David nous éduque.
Donc aujourd'hui, je vous parle jeux de figurines et jeux de rôle. Et ça part d'une publication Facebook peu nuancée. Donc là, je sais ce que vous dites sur Facebook, quand c'est pas nuancé, c'est pas nécessairement pertinent. Où est-ce qu'on va être invité là-dedans?
Mais quand est-ce que c'est nuancé?
Oui, c'est ça. Je pense juste que les gens vont dire... Oui, genre Facebook, c'est pas nuancé, il n'y a pas de surprise.
Mais des fois, il y a des belles publications, des fois, il y a des belles réflexions, mais souvent, effectivement, c'est pas super hot. Fait que voyez-le comme de l'engrais.
Ouais.
Donc, avec de l'engrais, on en met pour les champs. L'engrais, c'est pas propre, mais il y a quand même des belles plantes, des bons légumes qui poussent là-dedans.
Ça travaillait fort, hein, pour cette image-là.
Mais ça sonnait comme les gars, vous êtes dans le champ d'habitude, fait que je vais vous le dire.
Oh, bravo. Ça boucle la boucle.
Je veux vous parler de la réponse à une publication, mais la publication, je vais vous la dire tout de suite. C'est en anglais, mais je vous le dis en français. Les joueurs compétitifs ruinent le jeu.
Ouais, ça commence fort.
À ça, quelqu'un répond, va jouer à un jeu de rôle.
OK, là, j'ai hâte d'entendre le reste, ça a piqué ma curiosité. Là, pour les gens qui ont envie de nous jeter des tomates ou n'importe quoi qu'il y a de l'engrais, là, s'il vous plaît, attendez la fin de ce que David a à dire, parce qu'habituellement, il est politiquement correct, fait que j'ai hâte de voir ce que ça s'en va. Là.
J'ai envie de se faire éduquer, c'est nouveau.
Faites-moi confiance.
Ouais, c'est ça. On t'écoute avec toute attention du monde.
Fait que la réponse va jouer un jeu de rôle, je la trouve intéressante parce que moi, je l'ai déjà entendu dans notre groupe.
Ah, ben oui. Là, quand tu dis notre groupe, tu parles pas de nous quatre.
Non, dans notre groupe plus large de gens avec qui on joue, des gens que j'aime bien, des amis, puis tout ça. C'était pas dit méchamment avec une paire de claques, là, mais tu sais, l'idée était là.
Juste une claque. Il n'était pas en paquet de deux.
Non, juste une, pas la paire. Mais donc, je veux qu'on va commencer par examiner ce que ça implique de dire va jouer un jeu de rôle quand on parle des jeux de figurines, des wargames. Mais d'un, ça veut dire le jeu de figurines, c'est pas fait pour toi.
Ouais,
de deux, le jeu de rôle est différent du jeu de figurines. Et troisièmement, le jeu de figurines et le jeu de compétitif, c'est une seule et même chose.
Ah ouais, j'avoue, il y a un beau sous-entendu.
C'est ça. Fait que là, prenons le jeu de rôle est différent du jeu de figurines. Partons de cette idée-là. L'affirmation a du vrai, parce que si je te dis on joue à Donjons Dragons, puis si je te dis on joue à Warhammer, Age of Sigmar, c'est pas la même affaire. C'est deux types de jeux distincts. Il y en a un où on va simuler des batailles, puis l'autre, on va simuler l'aventure d'un groupe de personnages.
D'accord.
C'est bon?
Ouais, je te laisse, je te suis.
Par contre, et c'est là que je pense qu'il y a une nuance intéressante, si tu regardes l'histoire du premier jeu de rôle, Donjon Dragon, qui est l'évolution de Chainmail, ben ça part d'un wargame. À la base, l'idée, puis quand tu lis les entrevues de Gary Gygax, je pense que c'est Dave Arneson, quelque chose comme ça, il t'explique que ben, il faisait des wargames, il faisait des jeux de figurines, puis là, il voulait simuler des plus petits combats à l'époque médiévale, où là, c'est des assauts de donjons, puis souvent, c'est d'autres compétences, ça va être plus à une échelle individuelle. Puis au fur et à mesure, cette évolution-là nous donne Donjon Dragon, il y a un élément fantastique qui est rajouté. Donc, c'est le jeu de rôle, c'est une évolution du wargame. Fait que oui, il y a quelque chose de différent maintenant, mais ça vient du même endroit. Entre-temps, le jeu de rôle s'est beaucoup développé, puis il y a eu un gros courant dans les années fin 2010, là, un courant qui se disait narrativiste,
où là, on s'est dit Stranger Things. Je te dis, ben oui, t'as raison. Oui. Il y avait un grand courant qui s'appelle Stranger Things. Oui.
Mais un courant narrativiste où on va privilégier des jeux de rôle avec une approche plus descriptive, plus immersive, puis qui s'éloigne des systèmes compliqués ou des systèmes plus simulationnistes des premiers jeux de rôle. Puis dans ce contexte-là, il y a des gens qui vont commencer à dire que Donjon Dragon, c'est pas un jeu de rôle, c'est un wargame. Parce que son système est très basé sur la gestion des combats. Ça a changé un peu là, avec la 4e, la 5e édition, si je ne me trompe pas. Là.
T'es-tu en train de toucher à mon Donjon Dragon, toi? Là?
C'est pas une critique. je veux juste dire que par rapport au contexte dans lequel ils sont eux, ou comme.
Non, oui, je suis d'accord. Il y a plein de sortes de jeux de rôle que tu sens que c'est pas fait pour avoir des combats. C'est quasiment écrit dans le livre de règles de dire, genre, s'il vous plaît, ce jeu est bâti pour du roleplay, moins pour les combats. Faites attention.
Oui, c'est ça. Mais tu peux pas dire qu'il n'y a pas de filiation avec Donjon Dragon, parce que Donjon Dragon, ça reste le premier jeu de rôle. Qu'est-ce qu'on retire de ça? Qu'est-ce que je retire de ça? C'est que la frontière entre le jeu de rôle et le jeu de figurines est moins rigide qu'on peut le penser. On peut même dire qu'elle est poreuse. Chaque groupe, chaque personne va y aller de sa préférence. Il y en a qui vont être plus penchés sur les règles, la stratégie de combat, comment ils vont battre le dragon bleu, quel enchaînement de sorts. Ils vont optimiser, maximiser leur fiche de personnage. Puis il y a des gens qui vont jouer à des jeux purement narrativistes où c'est juste la description qui va compter.
Puis on s'entend que pour pouvoir bâtir ton personnage, ça aide d'aller voir l'appendice, par exemple, right?
Oui.
Fait que c'est correct si la barrière entre les deux est un peu poreuse.
Bravo.
Hein, je suis pas sûr de l'appendice et de la porosité, mais poreuse, c'est pas, ça veut pas dire que qu'il contient un liquide, c'est ça?
Ben, c'est parce que tu connais pas le groupe d'humoristes Les Appendices?
Ah oui, merci, maintenant que tu me le rappelles. Le personnage vient de me revenir en tête, effectivement.
C'est trop poreux.
J'espérais qu'il fallait qu'on l'explique pour vrai. Merci, Max. Je suis comme, s'il te plaît, va là. Je veux que les gens qui nous écoutent, qui ne comprennent pas, comprennent.
Merci. Ben, avec la belle...
Avec la belle imitation.
Avec la belle imitation, merci que David a fait. Je pense qu'on est bon. Tout le monde est à niveau.
Je te dérange plus, David. C'était
mon c'est bien correct. Fait que donc, c'est ça. Le jeu de rôle et le war game sont pas très différents. Il y a une filiation, puis il y a des gens qui jouent aux deux, qui se promènent entre les deux. Je voulais déjà briser ce mythe-là que c'est deux choses complètement différentes.
Mythe après,
on revient à la troisième application que j'avais mis. Le jeu compétitif et le jeu de figurines seraient une seule et même chose. Là, je vais retourner dans l'histoire, comme j'aime bien le faire. Les premiers jeux de guerre, les premiers wargames modernes sont développés par des militaires prussiens pour former leurs officiers. Avant d'être une compétition ou un tournoi, c'est un outil pédagogique.
Ça explique beaucoup, beaucoup de conversations avec des profs quand je travaillais dans les écoles.
On peut même dire qu'il s'agit d'une activité... On pourrait quand même dire que c'est juste une compétition entre des officiers qui jouent l'un contre l'autre, mais il faut garder en tête qu'à l'époque, on joue sur des cartes qui sont censées représenter des endroits réels avec des effectifs connus, avec les effectifs connus des forces en présence. Fait que, par exemple, ça va être le nord de l'Italie. On sait que l'Italie a à peu près tant d'hommes dans son armée, tant de régiments de cavalerie, etc. Pareil pour l'Autriche, mettons. Puis on va jouer avec ça parce qu'on se pratique à une potentielle guerre, puis on se pratique sur des terrains potentiels où ça va arriver. Fait que c'est pas une approche sportive où tu as un terrain délimité qui va être symétrique pour qu'il n'y ait pas d'avantage donné par le terrain, où tu vas déterminer un nombre de points symétrique pour qu'il n'y ait pas d'avantage par rapport à l'armée. Fait que c'est une approche plus sportive. Fait que c'est pas ça. Puis là-dessus, on a un exemple. Je vous mettrai le lien sur le groupe sur gallica.fr, qui est une super source de vieux documents. Une traduction du manœuvre sur la guerre, qui est un wargame du 19e siècle, traduit de l'italien en 1873. Où là, on va nous expliquer comment fonctionne ce jeu de guerre-là, qui sert encore une fois à l'éducation des officiers. Puis dedans, intéressant, dans les joueurs, tu as deux commandants, ou plusieurs, si c'est des plus grosses batailles, fait que tu vas avoir deux commandants en chef puis plusieurs commandants. Il va y avoir un juge, qui est l'arbitre neutre qui est garant des règles, et tu vas avoir un directeur, qui est en guillemets l'arbitre supérieur, qui s'occupe de la science de la guerre, donc plus la thématique de la partie. Et dans le manuel, puis ça, je me souviens, Kevin, tu l'avais lu il y a 5 ans.
Non, j'ai peur. Qu'est-ce que j'ai lu il y a 5 ans que j'ai déjà oublié?
C'est ça, il explique que le thème de la partie est super important. Où est-ce que ça se passe? Dans quel contexte? À quel moment de l'année?
Ouais.
C'est vraiment pas... On n'est pas dans la même approche que l'approche compétitive. Ouais. On est dans une approche de simulation puis de pédagogie. Oui, après ça, plus récemment, quand on tombe dans le jeu de figurines plus ludiques, dans une perspective de s'amuser, les premiers, c'est des jeux de figurines historiques. qui sont là pour divertir, puis on propose, à la base, on proposait de recréer des batailles précises ou des campagnes précises, puis pas d'établir une ligue où des équipes se mesurent sur leurs compétences, sur des champs de bataille symétriques avec un pointage symétrique. Fait qu'encore une fois, ça précède tout ça. Quand on parle de je vais lancer l'expression, mais c'est déjà sorti, là, de e-sportisation du jeu de figurines,
wow.
Puis on lit les articles, puis c'est pas une critique, là, c'est plus...
Une observation.
Une observation. C'est un développement assez récent. On parle des années 90. Si c'est récent, ça ne peut pas être indissociable. C'est plutôt une nouvelle évolution. Quelque chose que des gens aiment, qu'un groupe de gens qui vont suivre, puis c'est très correct. Mais c'est pas, ce n'est pas que ça, le wargame.
Ouais, ben on m'a dit dernièrement, je fais un parallèle. Là.
Mm-hmm.
Tu, mettons, moi, dans les années 90, mettons 90, 2000, whatever, là, les jeux de cartes de Pokémon, moi, ça m'intéressait vraiment beaucoup.
Ouais.
J'avais tendance à les collectionner parce que j'aimais ça d'avoir les jeux de cartes. Puis j'étais un fan du jeu vidéo de Pokémon. Puis j'aime l'univers. Puis whatever. Puis je parlais avec un autre hobbyiste dernièrement. Puis qui me disait la scène de jeux de cartes de Pokémon est extrêmement compétitive. Puis que t'as vraiment comme plusieurs stratifications. T'as les casual gamers qui trippent à jouer avec les cartes comme moi je trippais quand j'avais comme 10, 12, 15 ans. Puis t'as les gens un petit peu plus compétitifs, mais tu sais, qui vont pas nécessairement mettre le temps et l'énergie pour pouvoir se rendre jusqu'à. Je suis un joueur compétitif, notamment de compétition sérieuse, mais j'aime bien participer à des événements pour pouvoir triper avec la gang sur un jeu de la même façon que tout le monde. Puis, tu as le hardcore gamer qui tripe sa vie à vraiment comme je cherche les combos, je collectionne les cartes qui sont puissantes, c'est ça l'objectif. Puis, il y a vraiment eu une évolution très rapide au niveau du jeu de cartes de Pokémon qui fait en sorte que des fois, c'est pas toujours facile de savoir dans quel groupe que tu es. Puis selon les aléas de la vie, tu sais, mettons quelqu'un qui devient parent, par exemple, ben vite, tu peux tomber en dehors de la méta. Et bien vite, tu peux plus suivre. Fait que tu te retrouves à être dans un autre sous-groupe que tu n'avais pas prévu être dedans parce que c'était pas là que tu étais avant. Ça m'a vraiment fait penser à Warhammer en disant, genre, mais c'est tellement facile à Warhammer ou à d'autres jeux de guerre de partir d'une gang, mettons, on va dire ça de même, là, une gang qui trippe à jouer d'une certaine façon. Et de te retrouver dans une autre juste par le fait que ça fait un bout de temps que tu n'as pas joué. Parce que tu n'es pas au goût du jour, parce qu'il y a une nouvelle édition qui est sortie, parce qu'il y a... Peu importe. Fait que ce que tu racontes là, ça me fait un peu penser à ce genre de parallèle-là d'évolution récente, rapide, que c'est facile d'oublier d'où ça vient.
Oui. Puis quand tu es dedans, des fois, tu as l'impression que... Ou tu sais, quand tu as commencé puis c'était ça, tu as l'impression
ben oui.
Que c'est juste ça, effectivement. Puis je trouve une belle observation de ce développement-là, de cette évolution-là vers le e-sport, c'est quand tu regardes les tables, comment les tables ont évolué dans les tournois. On l'a vu au Grand Clash, il y avait des beaux tapis, mais sur le tapis, c'est marqué, je crois que c'est WTC dans le milieu.
Oui.
Qui est l'acronyme.
Il y en avait peut-être qui n'avaient pas ça, mais il y en avait effectivement.
Qui est l'acronyme des tournois, là. Je ne me souviens plus c'est quoi exactement.
World Trade Championship.
Quelque chose comme ça, oui.
J'exagère, j'ai aucune idée c'est quoi.
C'est intéressant, puis rajoute à ça les espèces de gabarits d'objectifs maintenant que tu mets directement sur la table pour savoir s'ils sont à l'intérieur du
jeu. Ouais, des aides de jeu d'objectifs, là.
Ben, c'est là que ta table se transforme en quelque sorte en une patinoire. Comme une patinoire ou comme un terrain de football où tu sais.
Ouais, ouais, les délimitations sont placées, les objectifs, les buts, un peu comme un terrain de football.
Ça veut dire qu'on a manqué une opportunité. Là. On aurait pu vendre de la pub sur le tour de notre table, right?
Je pensais que t'allais faire une joke genre « Hey les gars, faut qu'on se mette à faire du bloodball.
» Arrête, tu vas me donner le goût.
On a un autre projet.
Mais donc, je trouve que c'est un bel indice et une façon de voir comme cette évolution récemment, comment ça transforme les tables. On n'est plus dans on est dans des tables qui sont là pour servir le sport, donc l'accomplissement
ouais.
Du but, qui est comme carrer tes objectifs, puis qui met en plein centre fièrement le lien avec le tournoi, versus des tables qui sont plus axées vers l'immersion puis vers l'histoire.
Ouais, mais comme, par exemple, il y avait vraiment comme, là je vais faire un jeu de mots, clash. par exemple, tu sais, on avait comme dans la même journée samedi. On avait tournoi de Age of Sigmar, tournoi de 40K avec les tables, mettons, avec les tapis, comme tu mentionnais, avec le WTC, les positionnements de décor, ce genre d'affaires-là. Puis de l'autre côté, dans le fond de la salle, à côté de nous autres, il y avait Lord of the Ring.
Oui.
Avec genre Alexandre Guedry puis sa Tower of Hortank. Il y avait Guillaume qui avait fait Gronde, le gros bélier qui défonce les portes de Minas Tirith sur une table de Minas Tirith. Fait que t'avais vraiment comme un côté plus, je pense que ça représente bien ce que tu décris comme immersion d'un côté, mais avec des terrains qui serrent le jeu. Puis de l'autre côté, comme une espèce de on encadre le jeu autour des règlements ou la valorisation du tournoi ou de la compétition ou de l'aspect sportif du jeu au lieu de l'immersion en tant que telle. Je sais pas si j'ai bien résumé.
Oui, oui, c'est ça. Exactement.
OK.
Fait qu'en gros, où j'en viens avec ça, c'est tout comme le JDR, le jeu de rôle est une évolution du jeu de figurines, le jeu de figurines compétitif, e-sport, est une évolution récente et donc pas l'unique façon de pratiquer le hobby.
Ouh.
Et finalement...
Je m'allais dire, c'est-tu là-dessus que tu termines ton segment? C'est bon?
Si on revient à la première position, si tu aimes l'aspect narratif, est-ce que le jeu de figurines est fait pour toi ou est-ce que tu devrais aller vers le jeu de rôle? Ben, moi, je pense que le jeu de figurines est fait pour toi. L'important, dans le fond, c'est de jouer avec des gens qui partagent cet intérêt-là. Puis c'est peut-être plus difficile à trouver parce que ce qui est plus publicisé, c'est le jeu compétitif. Mais si tu regardes de plus près dans les conventions, dans les magasins, tu vas trouver des événements narratifs qui s'organisent ici et là. Puis c'est là que tu vas pouvoir rencontrer des gens, partager cette passion-là.
Là, David, deux choses. Je suis un peu déçu parce que tu n'as pas partagé notre page Facebook. Et, soirée peinture, la communauté, soirée peinture, le balado. Je vais leur dire en conclusion, anyway. Puis d'autres podcasts qui organisent des affaires. C'est Trinidad Wargaming, on a fait une entrevue avec eux qui fait justement des événements. Adepticon en fait régulièrement, ben, à chaque année, dans le fond. Là, il y a le. C'était quoi? C'est pas Zona, ça, c'est une maladie. Comment ça s'appelle? Shit, je sais pas pourquoi je m'en rappelle pas. Whatever, un événement narratif
de Nova. Ça se peut-tu?
Nova, exactement, bravo. Le Nova Open, qui est très narratif aussi. Fait que tu sais, il y a quand même comme plein d'éléments là, qui oui. existent. Fait que je suis un peu déçu que tu n'aies pas nommé notre Instagram et notre Facebook.
Mais tu étais là pour le faire, fait que c'est parfait.
Ah, mais merci David, je sais que tu faisais ça juste pour moi. Deuxième chose, je trouve que tu fais un bon lien avec le jeu de rôle, mais on se rappelle tous qu'on a déjà joué à Donjon Dragon. Avec des gens qui étaient des power gamers.
Oui.
Moi, personnellement, j'ai eu ma phase de power gamer où est-ce que je jouais à Donjons & Dragons dans le but de trouver les meilleurs combos possibles. Puis, quand tu tombes sur un groupe qui pense comme toi, t'as jamais l'impression que c'est grave parce que tout le monde pense pareil. Fait que ça sert le plaisir de tout le monde. C'est quand tu te retrouves à être le power gamer dans un groupe de storytellers ou le storyteller dans un groupe de power gamer, que tu vois qu'il y a clairement un clash là, au niveau des deux approches, mettons. Fait que de trouver l'approche, le groupe qui fait avec ton approche, c'est grandement bénéfique pour tout le monde. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'ouvrir aux différences, ça veut juste dire qu'il faut en être conscient. Fait que tu le vois dans le jeu de rôle aussi.
Ben oui, tout à fait.
Ouais, je me rappelle, c'est juste un truc que j'ai lu, je l'ai jamais vu, mais le barbare qui se téléportait à coups de grands cleaves, puis de lignées de gobelins. Là. Il y a des combos dans tous les jeux.
Oui. Si tu veux des combos, les jeux sont bons pour ça. Ça a le seul bénéfique. En quelque part, un des conseils que les gens donnaient au niveau de Donjons & Dragons, au niveau de leurs enfants, c'était ils vont apprendre la créativité et la résolution de problèmes. Parce qu'il faut que tu sois créatif au niveau du storytelling, mais il faut que tu sois créatif au niveau de la résolution de problèmes aussi. Parce que dans le fond, tu as ta boîte à outils avec ton personnage, puis ben, tu travailles avec cette boîte à outils-là qui part de ton environnement et de ton personnage et de tes alliés. C'est super bon, là! Là, Max vient nous donner un bon exemple de d'exagération de boîte à outils, peut-être, mais ça dépend de chaque personne. Ah, je ne me rappelais pas de ça, Max. Merci, tu me ramènes en arrière.
Ah non, des combos, il y en a partout. Là, dans nos jeux, quand on va manger du fast-food, partout.
Oh, wow. Ah, wow.
C'est là que ça en est. Je le savais, il revenait sur le combo. J'étais comme, il y a clairement un objectif.
Mais tu sentais le sourire dans la voix de Max.
Ah oui, hein. Tu vois que ça lui manquait de faire un épisode depuis deux semaines. Là. Il y avait hâte. Fait que David, étais-tu rendu à la fin?
Ben, il me reste une dernière chose à aborder.
Vas-y.
Je pense qu'on peut pas parler de ça sans revenir sur la publication Allumette, là, qui a allumé le feu de tout ça. Les joueurs okay. compétitifs.
Je pensais que tu me parlais encore de ton barbecue, là. J'étais comme, on a dit tantôt que c'était non.
Les joueurs compétitifs ruinent le hobby. Je pense pas. Je pense pas que les joueurs compétitifs comme Grotte Ensemble, ils ruinent le hobby. Je pense que c'est une façon d'aborder le hobby qui est différente. C'est juste que l'intérêt n'est pas le même, puis leurs besoins sont donc différents. La difficulté est peut-être plus du côté des compagnies. Comme tu dis souvent, Kevin, c'est difficile de faire plaisir aux deux types de clientèle en même temps, surtout quand leurs intérêts divergent de plus en plus.
Ben, surtout quand leur intérêt, c'est de faire de l'argent.
D'accompagnement.
Je veux dire, il faut être honnête, leur but, c'est de faire de l'argent. Donc, plus ouais. qu'ils desservent de gens et qu'ils les rendent heureux, mieux c'est. Mais ça demande beaucoup plus de production, d'adaptation, puis de sondage. Puis ça, ben, ça vient des erreurs. On va se le dire.
Oui. Mais au final, il y a des évolutions du jeu qui vont parler à une communauté plus qu'à une autre. Puis inversement. Mais il y a peut-être des innovations qui proviennent d'une approche qui pourrait bénéficier à l'autre. Puis là-dessus, Trident Wargaming a fait un bon épisode sur comment le jeu compétitif peut bénéficier au jeu narratif. Je vous invite à aller écouter ça si ça vous intéresse.
Pour ceux qui parlent anglais, là, si vous parlez juste français, vous allez être perdu un petit peu.
Donc, en conclusion, ben, écoutez, les deux approches existent dans le hobby. Les jeux de figurines existent pour les deux, puis il n'y en a aucune qui en a le monopole. Je pense que c'est le plus important, c'est d'apprendre à connaître ce qu'on aime, puis à pratiquer ce qui nous fait plaisir avec des gens avec qui on a du plaisir.
Ah, c'est beau, ça. Aimez-vous. Bravo.
Bravo. En as-tu des beaux légumes qui vont pousser là-dedans?
Hey, tu sais quoi? Je suis prêt à faire pudding de ça. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Phil?
Oh là là.
Ah, mais. Les gars, vous savez comment on appelle ça un pou sur une cloche?
Non.
Un pudding?
Hein? Tu l'avais jamais entendu?
Non.
Oh. Hey, c'est un classique.
Un pou sur une cloche. Pudding.
Oh, ça.
Hey, faut que je t'en explique deux aujourd'hui.
Oui. Je n'ai pas mangé encore.
Tu vas réchauffer ta poutine pour une quatrième fois?
Une deuxième fois. Je n'ai pas assez fait chauffer avant qu'on enregistre. Fait que là, je pognais qu'une poutine froide devant moi depuis une heure. Je n'ai pas tout à manger non plus. Ah, c'est détail. Ah, ben, merci beaucoup, David. C'était vraiment cool. Je suis content qu'on ait pu aborder ça. Bon, ça a commencé avec un effet feu, mais on a comme roundé ça up avec quelque chose de nuancé. J'aime ça. On part d'un post Facebook, on finit avec la nuance.
Hein?
Moi, j'appelle ça de la magie. Mais bon. Fait que c'est déjà fini pour l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez aimé ça. Comme d'habitude, on crée ces épisodes-là pour essayer de vous inspirer, que vous ayez du fun à nous écouter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, sur Balado Québec. N'hésitez pas à aller noter en nombre d'étoiles nos épisodes. Partagez le balado aussi, hein. Partagez-le à vos amis. S'il y a des gens qui se demandent le hobby, ça a l'air de quoi, whatever. Je pense qu'on est un bon podcast pour pouvoir faire découvrir le hobby avec plein de points de vue différents. Fait que n'hésitez pas à le partager. On a la page Facebook, je l'ai nommée tantôt, page Facebook officielle, Soirée Peinture, Le Balado. On a aussi la page de la communauté où est-ce qu'on interagit un peu avec tout le monde, puis les gens se donnent des conseils, puis on discute, puis c'est vraiment cool, qui est Soirée Peinture, La Communauté. On a la page Instagram, qui est soirée.peinture. J'espère que je ne me suis pas trompé. Puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des commentaires, des questions. Comme là, habituellement, chaque semaine, on a un petit segment où est-ce qu'on prend les questions du public. Là, aujourd'hui, on a pris ça relax. Mais on va pouvoir recommencer dans les prochains épisodes. Fait que n'hésitez pas à nous partager votre hobby. Et voilà! Donc, sur ce, il nous reste juste une chose à dire. David?
Bonne soirée peinture!
Max?
Bonne soirée peinture!
Phil?
Bon pudding!
Bonne soirée peinture! on n'est pas surpris.
Voyez-le comme un engrais. Tu sais, l'engrais, on sait ce que c'est. Ben, ça permet après ça aux plantes de pousser dedans, même si à la base, l'engrais, c'est pas nécessairement propre.
Oh, beau lapsus, beau lapsus.
Et ça, c'est le joueur historique qui se laisse aller, là. Et ça, c'était pas beau. Moi, je recommencerais ça ou je le laisse de même puis t'assumes.
Qu'est-ce que c'est quoi?
L'engrais, c'est pas propre.
Ah, mon Dieu. OK, non.
Ouais. Non,
c'est rendu,
ça rend même pas compte.
Non,
c'est
même
ça.
Pas rendu compte.
Hey, ça, là.
Wow! Ça, c'est next level.
Hey, oui, c'est next level. C'est genre, je suis méchant et je m'en rends même pas compte. Puis après, c'est basé sur la culture de quelqu'un d'autre et sa langue.
Mais là, si vous pensez que les gens vont entendre ça, je vais leur faire.
C'est non, ça mais... que tu le dis. Tu le dis un anglais.
Non, mais mon Dieu. Tu t'es comme repris dans ta phrase, mais oui, ça sonnait un peu comme anglais, mais comme si tu te reprenais tout de suite.
Non, mais Max, garde ça pour là, par exemple, quand on va vouloir rappeler à David que lui aussi n'est pas un modèle d'inclusivité.
Ah, ouais! On fait ça, là,
c'est du bonbon. C'est du bonbon, là.
C'est du Waterloo, ça. Ça, là. Fait qu'on se garde ça pour le 24 juin, c'est ça? Les batailles des plaines d'Abraham?
Non!
Hein? Ma joke
bravo. Merci. Bravo, Kevin. Celle-là est bonne.
Merci.